C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour et bienvenue dans C'est pas du vent. C'est la fête de la nature. Jusqu'à demain dimanche, depuis 10 ans en France, durant le mois de mai, on célèbre la diversité de la faune et de la flore. L'occasion pour le grand public de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle et bien souvent insoupçonnée. Et tout cela à deux pas de chez soi. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de revenir sur l'adoption par le Sénat d'un projet de loi sur la biodiversité. Cette future loi cadre déposée par le gouvernement en mars 2014 devait être audacieuse et pleine d'ambition, mais après son passage devant les sénateurs, elle est finalement édulcorée. Exit la taxation de l'huile de palme ou l'interdiction totale des néonicotinoïdes, des insecticides tueurs d'abeilles. Étrange, me direz-vous. Alors, la loi sur la biodiversité, loi historique ou catalogue d'intentions plus ou moins vertueuses?
C'est pas du vent sur RFI.
Et pour répondre à cette question, nous sommes avec plusieurs invités. Gilles Boeuf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Pierre et Marie Curie et conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. François Letourneux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Fête de la Nature. C'est vous qui organisez la Fête de la Nature depuis 10 ans. Vous allez nous en parler, bien évidemment. Et Benoît Hartmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Fédération France Nature Environnement. Gilles Boeuf, que représente cette loi sur la biodiversité? Est-ce une loi historique ou juste un catalogue de bonnes intentions?
L'histoire nous le dira si c'est une loi historique. On le verra à l'usage. Disons que, pour moi, le principal, c'est qu'enfin, on parle de biodiversité et qu'on ne peut plus faire en France quelques projets d'importance sans tenir compte de l'impact sur la biodiversité. Ça, c'est l'aspect positif du départ. Hein. Après, dans les détails, il y a tellement de points différents qui ont été discutés dans cette loi qu'effectivement, on est passé devant l'Assemblée nationale, on est passé devant le Sénat, on est rendu devant l'Assemblée nationale, on revient devant le Sénat. Tout n'est pas passé loin de là. Donc aujourd'hui, c'est quel usage en fait on va en faire dans le futur. Encore une fois, si vraiment ça nous oblige, et j'espère que oui, à ne plus avoir de projet sans regarder cet impact sur le vivant, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin dans le futur, c'est sûr. Oui.
Benoît Hartmann, tous ces renoncements après le passage au Sénat, est-ce que ça vous déçoit? Vous le comprenez? Vous vous y attendiez?
On s'attend toujours à un travail assidu d'un certain nombre de lobbies qui voient l'intérêt collectif comme un risque pour leur activité à eux. Donc oui, on s'y attendait. On s'attendait à avoir un Sénat un petit peu plus courageux, honnêtement, jusque-là. On se dirige très probablement vers un arbitrage où c'est les députés qui vont rendre l'avis définitif, puisqu'on a des doutes que la commission mixte paritaire qui doit faire s'entendre le Sénat et les députés aboutissent. Donc honnêtement, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu de l'ambition, et la vraie question de cette loi, vous posiez la question, est-ce que ça sera une loi historique? Ça sera une loi historique à condition qu'on accepte d'y mettre les moyens qu'il faut en face. Parce que on a identifié le problème, on connaît bien des solutions, mais simplement la question des moyens, c'est une question qui est extrêmement sensible, que ce soit les moyens humains ou les moyens financiers que l'État est prêt à mettre dedans. La volonté politique, ça se voit pas que dans les textes de loi, ça doit se voir dans les moyens, parce que sinon, malheureusement, le signal est mauvais depuis le début. Malheureusement, de cette mandature, le ministère de l'écologie a vu son budget réduire d'année en année et ses moyens plutôt diminuer. Donc on se demande comment on va donner les moyens, par exemple, à une agence de la biodiversité de pouvoir être là où elle doit pour conseiller, former, mais aussi sanctionner et récolter l'argent pour fonctionner.
Alors ça, on va y revenir évidemment, puisque c'est un des points cruciaux de cette loi. Mais avant cela, François Letourneux, on verra donc, on a dit, si cette loi est historique ou non. Est-ce néanmoins, dès à présent, une loi importante, selon vous?
Oui, c'est une loi importante parce qu'elle était riche de promesses. Et notamment, elle revenait sur un certain nombre d'imperfections de la loi de 76 sur la protection de la nature.
76, c'était la dernière loi
sur la protection. Sur la protection de la nature.
Ça remonte, donc.
Cette loi, elle était encore fondée sur une idée de la nature qui était l'idée qu'elle est fixe et que rien ne bouge, qu'on ne peut que protéger des choses, éviter leur disparition. Et qu'en créant un certain nombre d'espaces protégés, ça suffit pour que la biodiversité soit globalement protégée en France. Alors on sait maintenant scientifiquement que c'est faux. On sait que la biodiversité, c'est évidemment pas que des espèces, c'est les relations qu'elles entretiennent entre eux, c'est leur circulation sur l'ensemble du territoire. Et parler de reconquête de la biodiversité dans une loi, c'est admettre que on peut aussi avoir une action positive sur la biodiversité si on le veut. Alors, ça n'est, semble-t-il, pas ce que veulent les fabricants de pesticides, mais d'autres gens en France le veulent. Et cette loi, au moins, elle exprime ce changement dans le rapport entre l'homme et le reste du vivant. Et ça, c'est très important. La loi protection de la nature, elle était encore marquée par l'idéologie selon laquelle on est en dehors, on regarde la nature et on décide de lui octroyer une protection. Là, on se rapproche un peu d'une vision moderne. On est dans la nature, on est solidaire du reste du vivant, il faut qu'on progresse ensemble.
Gilles Boeuf, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'autres lois depuis 1976? Ça remonte quand même.
D'abord, le sujet est compliqué parce qu'on touche à beaucoup de domaines différents. Et moi, je reviens à ce que disait à l'instant François, c'est-à-dire que, en fait, on n'a pas encore admis que cette nature, nous sommes profondément immergés dedans. Nous sommes la biodiversité. Je raconte souvent qu'un corps humain, c'est au moins 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Hein. Un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 de flotte. Quand on fait Tara Océan, qu'on séquence le plancton de l'océan sur des stations dans le monde entier, on se rend compte qu'on a un bon tiers de choses communes entre le phytoplancton de l'océan et nos gènes à nous. On est dedans. Et je dis souvent à mes étudiants, vous savez, je montre une photo quand je commence mes cours. Votre lit ce matin, il y a 1,3 million d'acariens par lit, qu'on fasse le lit souvent ou pas. Voilà. Donc on est dedans jusqu'au cou. Chaque fois qu'on agresse cette nature, on s'auto-agresse soi-même. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et ça, je pense que cette loi, en tout cas ce qu'on va en faire, devrait avoir un énorme rôle pédagogique. Hein, réexpliquer aux gens. Et je suis entièrement d'accord avec ce que disait à l'instant François, ce que disait Benoît. La biodiversité, c'est pas un catalogue. C'est pas un inventaire de choses avec des plantes, des bactéries, des animaux. C'est tout un ensemble complexe de relations. L'humain est dedans. Ni en haut, ni à droite, ni à gauche. Le gros problème de l'humain aujourd'hui, c'est qu'il crée des conditions, effectivement, de mise en danger de cette biodiversité, sans se rendre compte, bien sûr, qu'il s'auto-agresse lui-même. Et je pense que cette mentalité-là doit changer, ce qui veut dire que toutes les pressions qu'on reçoit aujourd'hui de lobbies divers et variés, pour moi, ils n'ont pas de sens. Je dis souvent, en fait, c'est pas une question de droite et de gauche, c'est une question de bon sens et de retour à l'harmonie entre l'humain, cette nature qui nous entoure, et dont on a viscéralement besoin. Et je terminerai en disant qu'on n'a qu'une seule planète, ce qui veut dire que toutes les propositions actuelles de s'intéresser qu'à 0,001% des humains sur la Terre, et voilà l'échec. On n'a pas l'énergie pour en sortir aujourd'hui. Donc on est 7,3 milliards, 7,4, demain on sera 10.
Bientôt 9 milliards, voilà.
Voilà. Il faut que tout le monde se rende compte de ça, et que les gens qui aussi ont des neurones qui leur font penser qu'ils vont gagner beaucoup de sous en détruisant la nature, en la surexploitant, sont dans une réflexion, une philosophie délétère. Ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que ces lois qui sont pas venues, c'est parce que c'était complexe. Et moi, je peux pas supporter ces lobbies qui nous disent on peut pas se passer de produits dangereux, qu'on écrive dans ce cas-là en dessous, donc nous acceptons d'empoisonner les gens.
C'est la fête de la nature en France du 18 au 22 mai, on l'a dit, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la faune et la flore à deux pas de chez vous. Exemple avec cette promenade dans une ancienne zone d'entraînement militaire aménagée sous Napoléon III au 19e siècle, devenue aujourd'hui le bois de Vincennes à l'est de Paris. Notre reporter Antoine Lalanne a suivi Loïc Jugues de l'association Pixiflore.
Si je parle trop vite, pas assez fort, si mon élocution est mauvaise, vous me le dites, hein, y a pas de... Alors, ce qui est intéressant dans ces balades, c'est qu'on lève la tête en haut, et des fois, on lève la tête vers le bas. C'est-à-dire, en fait, au gros, on se penche vers le sol. Je vais avancer un petit peu pour que vous voyez. Et en fait, ici, ça, c'est un petit trésor. Ça s'appelle Ipanmine. Ça, c'est une kédidoine. C'est ce qu'on appelle aussi l'herbe aux verrues. Normalement, regardez, il y a un petit latex orange. C'est très toxique. Donc, il ne faut surtout pas mettre après ses mains aux yeux. Mais par contre, sur les verrues, on s'en sert. Et je ne sais pas si vous savez quel est son principal jardinier. C'est la fourmi. Parce que leurs petites graines noires, elles ont une espèce de protubérance blanchâtre qui est oléagineux. Et donc les fourmis les ramènent dans les fourmilières, tout simplement. Et donc elles dispersent. Elles les dispersent le long des murs, et ainsi de suite. Et ça, avant, on ne l'aurait même pas vu. Parce que le jardinier, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mauvaise herbe! Attention, détruire immédiatement! Donc je prends un bon pesticide, j'en fous plein là-dessus, et en même temps, j'ai détruit la terre qui est en dessous. Mais c'était pas très grave, c'était la logique d'avant. Heureusement, on commence à changer et on tolère ce genre de choses. L'arbre n'est pas un objet, la plante n'est pas un objet, c'est un ensemble qui évolue ensemble. Celle-là, ça se trouve, va attirer certains pucerons qui vont éviter d'aller sur votre rosier et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment un ensemble. Et c'était tellement triste d'avoir une vision, allez, j'ai ma plante objet, il n'y a plus rien. Je coupe tout, je rase tout et puis tout le reste est considéré comme négatif. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein, je crois qu'il y a une personne qui veut passer. Peut-être c'est pour la balade, non, peut-être ? Ah bonjour, bienvenue. Oui, on n'était pas très loin, ça. Bien, vous nous avez reconnus. Super, bienvenue dans le groupe. Alors, quand on est botaniste ou quand on s'intéresse à la nature, on est très lent. Il faut froisser, sentir, être curieux, prendre le temps. Vous avez vu, on a fait quoi? En une demi-heure, on a dû faire 10 mètres ou 20 mètres, quoi. Enfin bref, on est lent, quoi. On est très lent. C'est un peu un gastéropode, une espèce naturelle, c'est un truc bizarre comme ça. Et tout d'un coup, ce qui paraît le grand ouvert, un tout vert où on voit finalement les arbres et la pelouse, au fur et à mesure, ça commence à vous parler. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a de choses à observer, à voir, à découvrir? C'est incroyable!
Ça commence à souffler là.
Ouais, ça va commencer, ça va être la tempête. C'est le bon moment là, c'est parfait là. Alors l'avantage quand c'est comme ça, c'est qu'après il n'y a plus personne, vous êtes super tranquille. Les oiseaux aussi, parce qu'eux ils s'en fichent complètement, les plantes aussi. Avec les humains, ça inquiète. On va avancer un petit peu. Ah oui, alors ça c'est un monument aussi pour moi. On aurait pu à Jurassic Park, c'est quasiment un arbre qu'on aurait pu croiser presque. Ça s'appelle un cyprès chauve. Si vous venez à l'automne, il va devenir tout roux. Il a des couleurs, alors splendide, c'est vraiment un vrai miracle ça aussi. Vous savez, à l'automne, les feuilles deviennent souvent rouges ou pourpres, bah là ça va être pareil là aussi, hein. C'est des aiguilles hein, ça, ce qu'il a en fait. Hein. En gros, regardez le feuillage, il est extrêmement fin, c'est très 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 joli, ça va faire des petits cônes, donc d'où le nom de conifère. Et surtout le plus étonnant, c'est qu'en fait cette plante-là vient d'Amérique, du sud de la côte est. On peut le trouver dans le bayou. Donc on va imaginer 2-3 alligators, vous voyez. voilà, c'est une plante qui adore l'eau, ça, c'est la plante des marais typiques. Et son bois a été malheureusement extrêmement utilisé aux USA, il y en a beaucoup beaucoup moins maintenant. Parce que c'est un bois presque imputrescible. Donc c'est un bois qui est très résistant et tout ça. Et c'est des arbres magnifiques, hein. Ça fait 40 mètres d'eau sans aucun problème. Hein, ça. C'est un tout petit. Il sort vraiment de la préhistoire quasiment. Regardez ce que ça donne comme forme. On dirait une chimère presque. C'est incroyable. On dirait presque une tête gothique, vous savez, dans les églises. C'est incroyable, hein. Morphologique, c'est de ce côté-là en fait.
Une gargouille.
Là, c'est une gargouille, exactement. C'est magique, quoi.
Vous prenez quelques notes dans un petit carnet rouge et des photos.
Ouais, je pense que je vais essayer de remettre tout ça au propre et de me faire des petits des photos avec les infos que j'ai chopées aujourd'hui. J'aimerais bien revenir à l'automne et revoir un peu ce parcours et voir comment ça a changé, reprendre des photos. Et
alors, qu'est-ce que vous avez écrit dans ce carnet?
Par exemple, pour le cyprès chauve, j'ai noté que c'est un conifère qui n'a pas de feuilles en hiver et qui fait des pneumatophores, un terme que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai fait les photos des racines qu'on voit et qui sont assez impressionnantes.
Oui, et qui sortent de la terre pour aller jusqu'au lac.
Ah oui, c'est incroyable. On parle beaucoup du retour de la nature en ville. Effectivement, si on met un arbre qui est pneumatophore à côté d'un trottoir, on est un peu embêté. Donc c'est des infos qu'il faut avoir quand même un peu en tête. Parce que ne serait-ce que, par exemple, pour les gens qui fréquentent ce lieu, au bois de Vincennes, ils ne vont pas forcément avoir une attitude bienveillante par méconnaissance, pas par méchanceté, mais par méconnaissance. Bah, on le voyait, ils vont peut-être déranger les nids, ils vont peut-être arracher telle plante, pas avoir une attitude informée, quoi.
Bon, je vous laisse continuer la promenade, parce que vous avez d'autres notes à prendre. Quel est votre prénom?
Fanny.
Et pour être sincère, moi, au niveau du bois de Vincennes, quelque chose qui me ferait moi vraiment plaisir, c'est qu'il y ait des zones qui sont encore un peu plus sauvages. Quand il y avait la tempête, franchement, ça a été un bien. Je vais être sincère, pour les naturalistes, ça a été un bien, parce qu'il n'y avait plus d'intervention humaine, quasiment.
Quand vous dites la tempête, vous parlez de la tempête de l'an 2000.
Exactement. Moi, je l'ai vécu, j'y étais tout de suite. Hein. Carrément, c'était un jeu de domino par endroit. C'était carrément catastrophique. Après, nous, ce qu'on a vu d'un point de vue naturaliste, c'est que finalement, tout le monde après plus plat. Ils étaient tellement occupés avec leur bois, à couper le bois, à l'enlever, qu'ils ont laissé pendant plein longtemps le bois de Vincennes tranquille. Il n'y avait plus d'intervention quasiment. Et ben, c'était pas mal, quoi. C'est une forêt dans la ville ici, le bois de Vincennes, c'est hallucinant. Ça, c'était vraiment un vrai poumon vert qui était intéressant. Là, maintenant, ils sont en train de tout reprendre. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas en reconstruction. Et avec l'idée qu'ils mettent toujours du plastique. Dire que c'est interdit là, interdit là, interdit ici. Voilà, ça dénature un peu, quoi. Donc, bon, voilà. En tout cas, merci pour d'avoir écouté les paroles.
Merci, au revoir.
Un reportage d'Antoine Lalanne. Il y a encore de la vie au bois de Vincennes, Benoît Hartmann.
Oui, la biodiversité, c'est pas que source d'inquiétude, c'est aussi source d'émerveillement. La biodiversité, c'est ce qui est décrit dans ce reportage très bien. C'est de la vie dans le sol qui permet la vie des plantes, qui elle-même soutient la vie d'autres animaux. Et c'est ce lien fantastique. Quelle que soit l'échelle à laquelle vous regardez la nature, vous regardez le monde autour de vous, vous voyez cette biodiversité-là. Mais même en ville, vous savez, il y a un certain nombre de membres de France Nature Environnement qui s'amusent à entourer à la craie un certain nombre d'espèces qui apparaissent comme ça au bord d'un trottoir, juste pour dire aux gens, regardez, cette biodiversité, elle est là, elle est près de vous, et vous avez tout intérêt à la protéger. On évoquait la circulation des espèces. Une ville peut tout à fait s'intégrer dans une trame verte et bleue. Ces trames qu'on a conçues justement pour faciliter la circulation des espèces. On y a intérêt à plein d'égards, mais on y a aussi un intérêt culturel en termes d'émerveillement. Parce que pouvoir partager avec ses enfants l'émerveillement des martinets qui survolent même Paris, ça, on peut le partager. Et honnêtement, je crois qu'on mobilise plus de gens par l'émerveillement que par la terreur de la catastrophe, parce que malheureusement, nous sommes dans une catastrophe gigantesque. Pour autant, est-ce que c'est ça qui va réussir à nous mobiliser pour agir? Peut-être pas le plus grand nombre, peut-être le plus grand nombre, il a envie de se mobiliser autour de solutions plutôt qu'autour de peur.
Et de l'émerveillement. François, le tourneux, justement, disparition, on sait que la France abrite une très grande diversité animale et végétale, mais elle se classe au 6e rang des pays comptant le plus grand nombre d'espèces en danger. La France serait donc une mauvaise élève ?
Oui, la France est une mauvaise élève, mais pas pour cette raison-là, paradoxalement. Il y a un certain nombre d'études qui ont convergé ces temps derniers. Il y en a une qui a été faite à l'échelle de toute l'Europe par une équipe anglaise qui a étudié ce que devenaient les populations de 144 espèces d'oiseaux nicheurs d'Europe. 144 espèces d'oiseaux nicheurs, c'est pas la moitié, hein, c'est ceux seuls sur lesquels on avait suffisamment de chiffres. Et on a constaté que les espèces rares et menacées, leurs effectifs avaient été en général multipliés par 3. Et que par conséquent, les efforts des associations de protection de la nature, des organismes publics pour protéger les grues cendrées ou les busards des roseaux, ça avait eu des résultats très positifs. Et dans le même temps, les oiseaux communs, ceux qui ne sont pas menacés, les oiseaux ordinaires, l'alouette, le moineau, leurs effectifs ont chuté de moitié. L'Europe a perdu 721 millions d'oiseaux en 30 ans.
Mais c'est énorme, oui, Benoît Hartmann.
Alors, ce qui fait aussi malheureusement de la France un mauvais élève, c'est qu'une bonne partie de notre biodiversité est dans les territoires d'outre-mer, que ce soit la biodiversité marine ou la biodiversité terrestre. Et c'est un des endroits où malheureusement on connaît très mal cette biodiversité et où on a le moins de moyens et de la connaissance et de la surveillance et de la protection. Et donc ça, malheureusement, ça fait de nous un mauvais élève, d'autant plus quand on sait que la France a le plus grand domaine maritime au monde après les États-Unis, où maintenant on est un peu au-dessus parce qu'on vient d'étendre notre domaine maritime, ça veut dire pour nous une très grande responsabilité pour la protection, par exemple, des récifs coralliens. Et donc, face à cette grande propriété, on a une immense responsabilité et évidemment, ça fait malheureusement pour l'instant de nous un mauvais élève. L'enjeu de cette loi biodiversité que nous évoquons aujourd'hui, c'est de ne plus être un mauvais élève, mais au contraire, être leader sur ce marché émergent de la protection de la nature.
Bah là, on est loin du compte parce que Gilles Boeuf, malgré les outils réglementaires que nous avons à disposition, les parcs, les réserves, les sites Natura 2000, etc., seul 1% du territoire métropolitain est aujourd'hui sous protection forte. Le travail qui reste à faire est énorme.
Bien sûr. Et vous savez, le problème, c'est qu'on a des problèmes locaux. Donc, les parcs sont indispensables, hein, les réserves, évidemment, heureusement.
Il ne s'agit pas de les critiquer, mais c'est un simple constat.
Au niveau marin, par exemple, on a des preuves superbes en ce moment de la résilience augmentée, la capacité à résister bien meilleure des espèces si on est dans des zones un peu protégées et riches en diversité biologique. La question, c'est que ce n'est pas suffisant, parce qu'aujourd'hui, on vit un changement global qui va complètement mettre à mal ces parcs aussi, comme le reste. Le fait d'être dans un parc démontre qu'on peut mieux résister. Mais si ça change trop vite, ce qui veut dire que c'est à la fois une action locale de protection qu'il faut largement dépasser par une œuvre globale mondiale aujourd'hui. Ce climat qui change, il faut de très mauvaises fois pour dire que l'homme n'y est pour rien. En fait, que le climat change, c'est pas un problème, il a toujours changé sur la Terre. Il change beaucoup trop vite. Et nos espèces ont du mal, justement, devant ces changements. Puis il n'y a pas que le climat. On oublie qu'avec le climat qui change, on continue à détruire, on continue à contaminer et polluer, on continue à surexploiter et on continue à tout disséminer tout partout. Donc c'est là qu'il faut une œuvre globale générale. Mais cette loi, justement, devrait nous permettre de beaucoup mieux tenir ceci en compte de façon globale et générale. Mais pour moi, il y a un énorme effort d'éducation à faire, de connaissance aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui au muséum, bon, on est à peu près à 88 000 espèces vivantes.
Muséum national d'histoire naturelle.
Voilà. En gros, on a les 90 000 espèces en métropole. Il y en a beaucoup plus à l'extérieur. Je prends le cas, par exemple, moi j'aime bien les insectes. Je prends un exemple, ce sont les longicornes, ces coleoptères qui ont des très grandes antennes. Il y en a 246 en France. On est rendu à 1800 en Guyane et c'est pas la moitié de ce qui existe. Hein. Sur les oiseaux, c'est pareil. Donc, c'est vrai que il nous faut la connaissance. Et aujourd'hui, la vraie question pour les chercheurs, les naturalistes, c'est de se dire, voilà, comment on estime cette biodiversité sans forcément connaître toutes les espèces qui peuplent un écosystème. Et ça relance le débat sur les aspects, justement, de connaissance de la biodiversité et de son état. Et pour ça, on ne peut pas se contenter uniquement des catalogues. Et ça relance le débat après sur les compensations, qui est un autre problème.
Gilles Boeuf, François Letourneux et Benoît Hartmann, vous restez avec nous. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes pour la suite de cette émission sur la fête de la nature et la loi biodiversité. C'est pas du vent à suivre.